Soir.
Bonsoir, la violence se poursuit en Syrie. La ville de Homs a été bombardée par Damas aujourd'hui avant la visite de la Ligue arabe. Au moins 13 civils ont perdu la vie dans le quartier sunnite de Bab Amro. Situation confuse sur le terrain à Homs surtout. On tentera d'y voir plus clair avec l'expert militaire Alexandre Vautravers en ce début de forum. On appellera notre correspondante à Moscou, Madeleine Leroyer, puisqu'une nouvelle manifestation pourrait avoir lieu cette semaine encore. Une partie de l'opposition russe mise désormais sur un nouveau grand rassemblement unitaire en 2012. Alain Arnaud, notre correspondant en Chine, nous dressera la longue liste des activistes arrêtés et condamnés par le régime chinois en cette fin d'année pour subversion. Très lourde peine aujourd'hui, 10 ans de prison pour le dissident chinois Chun Si, coupable d'avoir publié quelques dizaines d'essais critiques sur Internet. Un invité fil rouge pour commenter l'actualité ce soir. Forum ouvre ce lundi sa série de cartes blanches données à des historiens. Alain-Jacques Tornard est notre premier invité, historien franco-suisse. Alain-Jacques Tornard est spécialiste des périodes révolutionnaires, auteur de nombreux ouvrages sur le sujet, dont La Révolution pour les nuls, La Révolution française pour les nuls. Il nous accompagnera toute l'heure. On s'interrogera avec lui en fin de forum sur le sens à attribuer aux mutations actuelles dans le monde arabe, qui pour lui ne sont certainement pas des révolutions au sens strict du terme. Son regard d'historien sur le printemps arabe, ce sera dès 18h45. Dans ce forum également, on reviendra sur la vente d'Orange Suisse à un fonds d'investissement basé en Grande-Bretagne nommé Apax Partners. Quelles conséquences pour les clients d'Orange dont le siège est à Renan? Faut-il s'attendre à des tarifs en hausse? Deux invités pour en parler ce soir, Pascal Martin, spécialiste des télécoms, et Mathieu Fleury de la Fédération romande des consommateurs. Mathieu Fleury qui rendra hommage ce soir à Catherine Valli, figure de la TSR, championne toute catégorie de la défense des consommateurs, qui s'est éteinte la veille de Noël. Les souvenirs aussi du conseiller national Jacques Nérin, qui a bien connu Catherine Valli pour avoir travaillé à ses côtés dans l'émission culte à bon entendeur. Ensemble, on se demandera si les consommateurs sont aujourd'hui suffisamment défendus en Suisse sur la question du Francfort en particulier. Enfin, on débattra ce soir du nouveau financement hospitalier en Suisse, à qui on prédit un démarrage difficile. Bernard Gruson, le directeur des HUG, y voit certes des avantages, mais aussi de nombreux dangers, notamment de chasse au bon risque. Quel changement pour les patients à partir du 1er janvier ? On entendra Bernard Gruson et le socialiste Jean-François Steyer, vice-président de la Fédération Suisse des Patients. Ce sera vers 18h30. Le beau temps s'installe en Suisse romande jusqu'à mercredi. Demain, le soleil sera omniprésent en montagne. Les températures resteront fraîches à l'aube, moins 1 degré et jusqu'à 5 degrés dans l'après-midi. Les prévisions complètes d'Edmé Fleury, ce sera juste avant 19h.
Forum, Laurent Keller, Laurent Caspary.
Notre invité fil rouge ce soir, Alain-Jacques Tornard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien franco-suisse, gruérien, ancien chargé de cours en histoire moderne à l'Université de Fribourg. Merci d'ouvrir cette série de cartes blanches aux historiens dans Forum cette semaine. Alain-Jacques Tornard, vous êtes spécialiste des relations franco-suisses, mais aussi de la période révolutionnaire. Vous êtes l'auteur de cet énorme ouvrage, La Révolution française pour les nuls, aux éditions First. On peut lire aussi vos chroniques dans Suisse Magazine, intitulé « Ces Suisses qui ont créé la France ». On va en parler tout de suite. D'ailleurs, votre dernière chronique s'intitule « Rodolphe Salis, le plus parisien des grisons ». Parlez-nous de Rodolphe Salis.
Rodolphe Salis, c'est le créateur du chat noir. Il est d'origine grisonne, lointaine origine grisonne. Et encore maintenant, d'ailleurs, vous pouvez aller voir le chat noir. C'est toujours une brasserie, il y a même un hôtel. Cette vieille famille qui a été au service de France, lui-même s'y rattache de manière plus ou moins artificiel, mais il fait partie de cette branche des grisons qu'on voyait partout en France à une certaine époque, parmi les confiseurs, par exemple. Il y a énormément de confiseurs. On ne sait pas, par exemple, que le calisson d'Aix a été créé en partie par un grison. Et dans mon enfance, d'ailleurs, j'ai passé mon enfance à Douai, dans le nord de la France, il y avait toujours à Noël un marchand de marrons, et c'était un grison. Donc on les voyait facilement comme cela.
L'énigmatique grison de Châtellerault, c'est-à-dire dans le magasin Suisse Magazine, et votre chronique s'intitule « Ces Suisses qui ont créé la France ».
Vous aimez bien parler des Suisses
à titre provocateur. On va parler avec vous en fin de forum dès 18h45. C'est votre choix ce soir de revenir sur les soulèvements dans le monde arabe en 2011. On en a beaucoup parlé. On entendra votre regard. Pour vous, on peut pas dire révolution là. Il y a un abus de langage.
Il y a beaucoup de mots comme ça qu'on commence à notre époque à utiliser de manière abusive. Le mot génocide, par exemple, on le met à toutes les sauces. Et le mot révolution, exactement. Alors, il faut donner une définition bien précise du mot révolution. Et il me semble que ça correspond pas forcément à ce que l'on voit actuellement dans les pays arabes, en tout cas.
Pourquoi on utilisait ce terme, selon vous?
Parce qu'il fait très joli dans le mot révolution. On rêve de ça. Surtout dans une période qui est en fait beaucoup plus statique qu'on l'imagine. Hein. On ne change pas beaucoup les choses. On sent qu'on ne peut pas changer les choses. Et là, tout à coup, on a un mot qui nous permet de rêver au grand changement, au grand chamboulement. Mais c'est fini. C'est pas pour rien d'ailleurs que Fukuyama avait dit que l'histoire s'était achevée en 1789. Le capitalisme triomphant fait qu'on ne peut pas changer les choses en profondeur. Du moins, c'est ce qui semble être la réalité.
Vous nous direz tout à l'heure, dès 18h45, ce qu'est un vrai changement pour vous, Alain-Jacques Tornard. Vous restez avec nous toute l'heure pour commenter l'actualité. On va d'abord se pencher sur le cas de la Syrie, Laurent Caspary.
Oui, la Syrie où des observateurs de la Ligue arabe doivent se rendre demain à Homs, un des hauts lieux de la contestation syrienne contre le président Bachar el-Assad. Et cela au moment où, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les forces régulières ont lancé aujourd'hui une offensive militaire majeure pour prendre le contrôle d'un quartier de cette ville. Homs, où se battent depuis plusieurs semaines armées loyalistes et des soldats déserteurs. Aujourd'hui, le bilan est de 13 civils tués dans cette ville, toujours selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme.
En direct de notre studio de Genève, Alexandre Vautravers, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le rédacteur en chef de la revue militaire suisse, directeur du département des relations internationales à la Webster University. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. On voit une certaine confusion en ce moment à Homs entre les troupes régulières, les déserteurs, les milices. Difficile d'y voir clair. Vous y voyez un peu plus clair que nous, Alexandre Vautravers. Qui se bat contre qui en ce moment?
Voilà, alors il y a différentes factions dont beaucoup de ces factions finalement sont motivées, équipées, instruites, encadrées depuis l'étranger. Mais il y a aussi une situation de calendrier, le temps presse finalement pour le gouvernement syrien en ce moment.
Qu'est-ce qu'on peut dire de l'armée, de ces déserteurs, des milices? On comprend pas toujours qui se bat et dans quel objectif. Aujourd'hui, on arrive à y voir un peu plus clair?
Alors, peut-être commençons par parler du parti loyaliste, si vous voulez, puisque l'armée syrienne, si on la situe dans le contexte de ces révolutions arabes ou de ce printemps arabe dont on a parlé tout à l'heure, c'est grosso modo 4 fois l'effectif de l'armée de Muammar Kadhafi. Donc c'est quand même une armée relativement forte. Par contre, c'est seulement 40% de l'armée égyptienne. Donc c'est une armée relativement importante, mais dont le moral ces dernières décennies n'a jamais été très bon lors d'engagements réels. On se souvient en particulier de plusieurs guerres israélo-arabes où l'armée syrienne n'a pas montré des qualités ni d'entraînement individuel, ni d'encadrement, ni de doctrine cohérente.
Et alors ces fameux déserteurs, Alexandre Vautravers, est-ce qu'on sait combien ils sont? Il y a des chiffres qui circulent, quelques dizaines de milliers, 20 000, mais peut-être beaucoup plus. Est-ce qu'on peut savoir?
Alors les chiffres les plus optimistes, c'est environ 20 000. Moi je dirais, ça c'est vraiment la fourchette la plus aiguë. Ce qui est intéressant par contre, ce serait de savoir combien de soldats au sein de ces 220 000 environ forces terrestres syriennes ne sont pas prêtes ou renâclent finalement à participer à ces opérations de maintien de l'ordre. Et là, je pense que probablement ce chiffre est beaucoup plus élevé. Ce qui est intéressant aussi, c'est pas tellement cette armée syrienne libre, on va dire 10 à 20 000 soldats, mais c'est son encadrement où ce sont les milices internationales. On parle maintenant d'un groupe d'environ 600, certains vont jusqu'à 1500 combattants djihadistes, dont environ 5 à 600 viendraient de Libye. Donc je pense que là, il y a des groupements beaucoup plus virulent que cette armée de syrienne libre, faite essentiellement de déserteurs.
Est-ce qu'on peut dire ce soir que certains de ces groupements armés sont formés par les États-Unis qui ne souhaitent toujours pas intervenir?
Alors, les États-Unis sont très impliqués dans le conflit. Faut pas oublier non plus que pendant la guerre internationale contre le terrorisme, la CIA et les forces de sécurité de renseignement américaines étaient très proches et donc ont une connaissance extrêmement détaillée. Je pense que c'est pas un hasard si actuellement la majorité des attentats, des attaques de cette armée syrienne libre visent justement des sièges du parti Baath ou des centres de renseignement.
Ces djihadistes dont vous nous parlez, peut-être venus de Libye, c'est uniquement pour aider les forces syriennes libres ou bien c'est des groupes qui ont aussi leur propre vue sur le pays?
Alors, sans aller jusqu'à, disons, la théorie du complot, je pense qu'il y a certains groupements qui sont payés, rémunérés, encadrés, recrutés à travers finalement tout le monde musulman. Et puis, bien sûr, on peut penser à l'Afghanistan, on peut penser à l'Irak. Il y a beaucoup de combattants de ces différentes régions financés par certaines pétromonarchies, pourquoi pas, qui ont agi en Libye. Ça a causé certains grincements de dents au sein de l'armée américaine. On voit finalement ce modèle se poursuivre actuellement en Syrie.
Que peut donner, selon vous, ce rapport de force en ce moment entre toutes ces entités militaires ? Vers quoi cela peut déboucher, selon vous ? Qu'est-ce qui va faire la différence ?
Alors, comme j'ai dit, c'est essentiellement une question d'alliance, une question d'intervention de la communauté internationale et une question surtout de temps. C'est-à-dire que le temps joue actuellement contre le gouvernement de Bachar el-Assad. Il faut pour le parti loyaliste rapidement museler cette insurrection. Et ce qui est en train de se passer maintenant, c'est une régionalisation du conflit ou une internationalisation du conflit. On va tenter de mettre en place un parapluie de protection aérien international ou peut-être même de certains États limitrophes. On pense en particulier à la Turquie qui pousse très fort dans ce sens. Et puis les éventuelles conquêtes terrestres qui pourraient être faites par cette armée syrienne de libération ou cette armée libres, eh bien, serviront à créer une zone tampon à la frontière très proche de la Turquie, de manière finalement à grossir les rangs de cette armée révolutionnaire ou libre, et donc créer une situation de guerre civile.
Le début d'un appui de l'extérieur. Merci beaucoup Alexandre Vautravert, directeur du département des relations internationales de la Webster University. Merci pour votre regard ce soir. Alain-Jacques Tornard, on l'entend, régionalisation, voire internationalisation du conflit syrien, c'est souhaitable selon vous ?
Moi, il y a surtout quelque chose qui me gêne beaucoup, c'est cette polarisation sur la Syrie. Maintenant, si on prend un peu de distance, et sans bien entendu tomber dans la théorie du complot, on voit bien que sur des dizaines d'années, il y a une volonté des Américains de stabiliser la région d'une manière assez américaine, en jouant la carte des religieux, c'est-à-dire en clair, de donner le pouvoir plus ou moins aux islamistes, en schématisant. Et on le voit très bien, durant des dizaines d'années, on s'en est pris systématiquement au régime laïque. Les vrais régimes laïques au Moyen-Orient ont tous été dans le collimateur des États-Unis et ont tous été détruits par les États-Unis. Le dernier parti basse qui était au pouvoir, l'Irak, c'était quand même le parti basse, c'était un parti laïque. On peut dire tout ce qu'on veut sur sa valeur démocratique, naturellement. Je rappelle quand même qu'il n'y a pas de démocratie au Moyen-Orient en dehors d'Israël et un petit peu la Turquie. Mais en l'occurrence, il y a une véritable volonté des Américains de détruire tout ce qui était laïque, en particulier donc le parti basse. Le dernier en place, c'était celui de la Syrie. Avec toutes les conséquences sur le plan humain que cela implique, et pas seulement ce que l'on voit actuellement, mais La fin de la présence chrétienne, par exemple, en Irak, c'est quand même quelque chose d'assez terrifiant de voir ça. Et ça va bientôt suivre en Syrie, alors que les chrétiens vivaient très bien en Syrie.
Alexandre Vautravert vient de le dire, hein, il a utilisé le terme « les forces libres », ouais. « Les forces révolutionnaires ».
Oui, bon, bien entendu. Dès qu'il y a des insurgés, c'est des forces révolutionnaires. Vous savez, je me suis amusé parce que j'ai écrit la suite de la révolution pour les nuls, où on voit le mot révolution, il est mis absolument à toutes les sauces. Et dès qu'on veut faire quelque chose de joli, vous avez les FARC, c'est des révolutionnaires, les pires contre-révolutionnaires deviennent des révolutionnaires. Vous avez même en France une Marine Le Pen qui se dit héritière de la révolution française. Donc, vous voyez, on peut aller très loin comme ça. Ça fait toujours bien,
hein. Alain-Jacques Tornard. Vous restez avec nous toute l'heure. On va passer à une inforoute.
Infotrafic RSR.
Soyez très prudents si vous circulez sur l'autoroute Yverdon-Morra. Un véhicule a perdu une roue sur la voie de dépassement entre Estavayer-le-Lac et Payerne en direction de Morra. Cette situation devrait se prolonger jusqu'aux alentours de 18h30. Dans l'actualité internationale, toujours en Russie, l'opposition veut une nouvelle manifestation, Laurent Caspari.
Oui, et une psychothérapie nationale, c'est ce que propose Vladimir Poutine à ses concitoyens. Le premier ministre russe, qui était resté silencieux depuis les manifestations de samedi, a donc trouvé le remède à la crise. Le diagnostic est partagé, mais les médecins, c'est le moins qu'on puisse dire, s'affrontent. On va en parler avec vous, Madeleine Leroyer, vous êtes notre correspondante à Moscou. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors la solution Poutine, c'est donc une psychothérapie collective.
Oui, il faut rassurer les Russes, constate le Premier ministre, leur redonner confiance en l'avenir Comment ? Eh bien, par une présence accrue du gouvernement sur Internet et à la télévision. Et de citer à titre d'exemple un précédent historique, Roosevelt, pendant la Grande Dépression, qui multipliait les interventions à la radio avec, je cite, pour but principal, une psychothérapie nationale. Selon Vladimir Poutine, le gouvernement d'ailleurs a un train de retard. Nous n'utilisons pas assez efficacement les moyens dont nous disposons pour communiquer avec la société. Il faut redoubler d'efforts. Un remède qui risque, vous l'imaginez bien, au mieux de faire rire l'opposition qui ne cesse de dénoncer l'incapacité du pouvoir à répondre aux questions posées par la rue, autrement que par des gesticulations et des effets de communication.
Oui, Poutine qui cite Roosevelt, on imagine effectivement que ça va faire réagir l'opposition. Mais Madeleine, alors où en est-elle cette opposition ? Comment compte-t-elle s'organiser pour tenir compte aussi de ses succès ?
Alors, les organisateurs du meeting de samedi annoncent un prochain grand rendez-vous fin janvier, début février. Pourquoi si tard finalement ? Eh bien, il faut savoir qu'en Russie, les 10 premiers jours de janvier sont fériés. La Russie, hiberne. Ça ne veut pas dire que l'opposition va rester les bras ballants en attendant. Il y a des choses très concrètes à mettre en place. D'abord, une première manifestation ce vendredi pour la libération d'un des opposants, Sergueï Udaltsov, qui est un militant d'extrême gauche. Il a engagé une grève de la faim. Les plaintes devant la Cour suprême sur les cas de fraude, l'organisation de la mobilisation dans les régions avec la création de comités d'électeurs qui vont servir de relais, le financement du mouvement, en un mot, le défi est vaste.
Ouais, d'autant plus vaste que cette opposition, on le sait, est extrêmement disparate.
Mais effectivement, elle couvre à peu près tout le spectre politique, de l'extrême gauche aux libéraux en passant par les nationalistes. Nationalistes que, d'ailleurs qui sont très largement représentés dans le comité d'organisation des meetings. C'est l'effet Alexei Navalny. Alexei Navalny, ce sulfureux blogueur anticorruption qui ne cache pas ses penchants nationalistes. Il est un peu à la figure de proue du mouvement, la star du meeting de samedi, courtisé par les médias. Alors est-ce que ça va suffire à faire de lui un leader d'opposition nationale, peut-être un présidentiable en puissance, eh bien il est bien sûr trop tôt pour le dire.
Madeleine Royer, vous étiez en direct de Moscou, merci.
Alain-Jacques Tornard, on l'entend, opposition encore disparate, Vladimir Poutine en appelle à une psychothérapie collective, ce qui n'a pas empêché quand même aujourd'hui Libération de titrer un air de printemps. Alors est-ce que vous y croyez ? On est au début d'un printemps russe.
Bah, disons que ce que je remarque surtout, c'est que c'est toujours très menaçant dès qu'on parle de la Russie, parce que c'est une structure très fragile et qu'il faut s'en méfier vraiment plus peut-être que du temps de l'Union soviétique. Pourquoi ? Parce que l'Union soviétique, c'était quand même quelque chose d'assez solide, d'assez cohérent. Il n'y a pas de tradition démocratique en Russie, parce qu'on est passé directement du tsar au communisme dur, et les frontières actuelles de la Russie ne sont pas stabilisées. Et on a mis fin, nous, aux Occidentaux, au dogme de l'intangibilité des frontières en Europe. Vous savez, c'était quelque chose qu'avait voulu Staline en 43 avec les accords de Crimée, Yalta. On avait dit qu'on ne toucherait plus aux frontières en Europe. Le problème, c'est qu'on a eu la très bonne ou très mauvaise idée de toucher aux frontières de la Yougoslavie, ou plutôt de la frontière de la Serbie avec le Kosovo. Et la Serbe était les alliés des Russes, en l'occurrence. Et aucune frontière, en fait, si vous faites le tour de la Russie, n'est stabilisée. En interne, avec les républiques internes, les républiques autonomes de Russie, mais aussi les frontières extérieures. Les îles Kouriles, il y a toujours un contentieux avec le Japon. On a l'enclave de Königsberg en Europe. Les frontières des pays baltes ne sont pas stabilisées. Vous avez la Transnistrie, des États même qui sont russes, à la frontière roumaine de la Moldavie, qui ne sont pas non plus stabilisées.
Donc, groupe fragile, là, ouais. Il ne faut pas trop bousculer.
Non, il vaudrait mieux s'en méfier quand même et de faire attention.
Hein. On va poursuivre l'actualité avec la Chine, où un énième dissident a été jeté en prison pour subversion, Laurent Caspary.
Oui, il s'appelle Chen Si, il a été condamné aujourd'hui à 10 ans de prison pour subversion. Un autre activiste a écopé de 9 ans vendredi et un célèbre avocat a été remis en prison il y a une semaine. Alain Arnaud, vous êtes notre correspondant en Chine. C'est une année à marquer d'une pierre noire dans les annales de la répression qui s'achève en Chine.
Oui, c'est vrai que c'est par centaines qu'ils ont été arrêtés cette année, les dissidents, les démocrates, les défenseurs des droits de l'homme, les avocats engagés. C'est aussi vrai que la plupart d'entre eux ont été relâchés, mais de loin pas tous. Preuve en est la condamnation très lourde aujourd'hui de Chen Si, coupable d'avoir publié sur Internet 36 essais critiques, 10 ans de prison pour lui. À 57 ans, cet ancien Tiananmen en a déjà passé 15 derrière des barreaux, et 9 ans vendredi pour Chen Wei, un avocat condamné lui aussi pour subversion du pouvoir de l'État.
Alors Alain, on note que tout cela arrive évidemment à la veille et au lendemain de Noël.
Ça n'est sans doute pas un hasard, hein, vous vous en doutez. On se souvient du jour de Noël 2009 et de la condamnation à 11 ans de prison d'un certain Liu Xiaobo. Il n'était pas encore prix Nobel de la paix. Donc oui, la période des fêtes, c'est l'assurance d'avoir peu de critiques. L'activité diplomatique tourne au ralenti. Les verdicts ont plus de chances de passer inaperçus dans le monde. En Chine, de toute façon, les médias sont avertis qu'ils ne doivent pas en parler.
Et vous évoquez le prix Nobel. Alors on a le sentiment que l'attribution de ce prix Nobel à un dissident chinois n'a fait, au fin de compte, qu'empirer les choses.
Oui, c'est vrai. Et c'est aussi ce que me disaient des amis de Liu Xiaobo en octobre de l'an dernier. Ils s'attendaient à ce que les autorités resserrent encore la vis. Ils prévoyaient la vague de répression qu'on vit cette année, tout en pensant que le Nobel servirait quand même leur cause un jour. Cette année, les choses se sont vraiment gâtées. En février, quand des appels anonymes sur Internet ont tenté de mobiliser des rassemblements dans les grandes villes chinoises sur le modèle des révolutions du monde arabe.
Et est-ce que ça veut dire que les autorités ont pris peur ?
Oui, effectivement. Alors qu'à peu près tous les observateurs s'accordent pour dire que la situation chinoise n'a rien, mais vraiment rien à voir avec le monde arabe et qu'on est ici à des années-lumière de toute tentative ou même de volonté de renverser le pouvoir. Mais rien n'y a fait. Tout paraissait grande, hein, la parano de l'équipe dirigeante. Et depuis le début du printemps, oui, on peut le dire, la terreur règne. On se souvient des mésaventures de l'artiste Ai Weiwei. Et moi, depuis lors, je ne trouve plus aucun activiste ou dissident qui est d'accord de me parler. Et puis ce Noël, j'ai voulu faire le point avec quelques églises protestantes clandestines que j'avais visitées par le passé. Clandestines, mais jusqu'ici tolérées. Or là aussi, les gens répondent au téléphone, mais vous disent qu'il est hors de question de parler.
C'est donc répression tout azimut.
Alors que la constitution chinoise, on le rappellera, garantit la liberté d'expression et de culte. Mais pour la religion, par exemple, le gouvernement vient de remettre à l'ordre les membres du Parti communiste en leur rappelant que leur engagement politique est incompatible avec une pratique religieuse. C'est que pas mal de membres du PCC sont aussi adeptes de ces mêmes églises clandestines et ça semble, à vrai dire, beaucoup déranger les dirigeants. Et puis, il y a aussi la censure. Hein. On apprend aujourd'hui même qu'à Shanghai, il faudra désormais décliner son identité pour ouvrir un compte sur Weibo. Weibo, c'est le Twitter chinois. Pékin et Canton ont annoncé la même chose ces derniers jours.
Alors, répression toujours plus dure. Est-ce que ça veut dire que ça va continuer, Alain Arnaud ?
Oh, vous savez, il n'y a pas de raison que ça cesse, hein. Pas encore en tout cas. On est dans une période de changement de pouvoir, l'équipe dirigeante va céder sa place en automne prochain, on a des raisons de penser que tout va rester figé jusqu'à cette échéance. Qu'est-ce qui va se passer après ? C'est le grand mystère, on connaît les principaux successeurs, mais ils cachent vraiment bien leur jeu. Le pouvoir en tout cas est tiraillé entre réformateurs et conservateurs, on va devoir encore beaucoup attendre pour savoir quel bloc finalement l'emportera.
Alain Arnaud, notre correspondant en Chine.
Alain-Jacques Tornard, vous êtes toujours avec nous, vous restez jusqu'à la fin de l'émission. On voit la parano de l'équipe dirigeante, on serre la vis hein, en réponse à ce qui se voit ailleurs dans le monde.
Il faut dire aussi que sur le plan historique, la Chine communiste a véritablement tiré une balle dans le pied à plusieurs reprises, avec la révolution culturelle, la condamnation des religions, mais surtout leur propre, parce que là vous parlez de religions importées, protestantisme, catholicisme, c'est amusant parce qu'on dirait que les dirigeants chinois sont plutôt de cette orientation-là, pour certains. Et c'est là qu'on voit qu'on a laissé un grand vide. On a tué les religions traditionnelles en Chine et on a laissé avancer des religions extérieures. Donc c'est quelque chose d'assez assez dur à supporter. Se rendre compte que, culturellement parlant, ils ont fait de graves erreurs. Et en plus, ils ont un mal à leur propre histoire. Par exemple, j'ai remarqué qu'on a commémoré le 100e anniversaire de la République de Chine, Sun Yat-sen, créée en 1910, la République de Chine. Et savez-vous que la seule Chine qui a fêté, c'est Taïwan. Taïwan a fêté en grande pompe, j'y étais à Berne d'ailleurs, la commémoration de ce 100e anniversaire. Et c'est étonnant de voir que là, on a complètement laissé de côté cet aspect-là.
Comment est-ce que parce qu'on voit bien hein, qu'il y a une tentative, alors pas de révolution, mais tentative de révolte qui se fait par les réseaux sociaux maintenant beaucoup. Ça, vous imaginez que la Chine peut-être suivre un peu les mouvements arabes ? C'est venu un peu par ces nouvelles technologies ?
Ben oui, via les nouvelles technologies, c'est la révolution assistée par ordinateur, hein, qu'on pourrait
Et vous avez dit révolution.
Oui, parce que c'est des volontés de, il y a une volonté de changement. Le problème, c'est quand il y a une révolution, c'est qui est derrière la révolution. Ça peut être des faux semblants. Vous savez, c'est comme il y a des faux modernes. Il y a des réactionnaires et des révolutionnaires, puis il y a des faux modernes. Puis c'est eux qui ramassent la mise après. Savoir qui est derrière, qui sont derrière ces mouvements. Qui va profiter de tout ça? À qui profite le crime?
Dans l'actualité également, l'incertitude, Laurent Caspary, autour de l'avenir d'Orange Suisse.
Oui, on va revenir sur cette information. Donc, l'opérateur Orange Suisse a été vendu par France Télécom pour 2 milliards de francs à Apax Partners, un fonds d'investissement qui est basé en Grande-Bretagne. On se souvient qu'Orange Suisse, dont le siège est à Renan, dans le canton de Vaud, avait projeté une fusion avec Sunrise, deuxième opérateur suisse derrière Swisscom. Mais le projet avait dû être abandonné en mai 2010 suite au refus de la commission de la concurrence, la Comco. La Comco, d'ailleurs, qui doit encore donner son aval à cette vente entre France Télécom et Apax Partners.
Deux invités avec nous pour évoquer la vente d'Orange Suisse. Pascal Martin, animateur du blog www.scal.ch, spécialisé dans le multimédia et les télécoms. Également avec nous Mathieu Fleury, secrétaire général de la Fédération romande des consommateurs. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Pascal Martin, tout d'abord peut-être réaction à cette vente d'Orange. Sur votre blog, vous dites attention, éventuellement une mauvaise nouvelle, vous méfiez de ce fonds d'investissement.
C'est pas que je me méfie de ce fonds d'investissement, mais c'est du fait que justement ce soit des investisseurs. On voit qu'il y a ce qu'il faut en Suisse, c'est de l'argent pour investir dans les réseaux. Et là, il y a entre le rachat de Sunrise et le rachat d'Orange, il y a plus de 5 milliards qui ont été mis sur la table. Mais ces 5 milliards, c'est beaucoup d'argent qui ne passeront pas justement pour l'extension des réseaux, vu que ces investisseurs, leur but est de gagner de l'argent en revendant une fois à court terme.
Cela dit, ça montre quand même qu'Orange a aujourd'hui une certaine valeur. Ça attire les fonds d'investissement. Ça, c'est une bonne nouvelle quand même sur la solidité du groupe.
Alors, je pense que si ça a attiré des investisseurs, c'est avec la vue de pouvoir à terme fusionner et de revenir avec l'idée d'une fusion avec Sunrise. Et c'est autour de cet aspect-là que ça a tout un intérêt pour ces fonds d'investissement.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas la place pour trois opérateurs. Tout le monde veut fusionner les deux plus petits. Sauf la Comco.
On voit que c'est assez difficile pour les concurrents de Swisscom de gagner des parts de marché. Ils ont aujourd'hui à peu près le même nombre de clients qu'avait Swisscom lorsque Orange et Sunrise sont arrivés sur le marché. Et aujourd'hui, gagner un client, c'est très dur. Et le client suisse, c'est très exigeant. Et il lui faut plus qu'une petite différence de prix pour changer d'opérateur. Et dans ce contexte-là, trois opérateurs, si on regarde ce qui s'est passé jusqu'à présent, c'est surtout un opérateur très fort et deux autres qui se bagarrent entre eux sans que ça crée vraiment de réelle concurrence et de réelle compétition.
Mathieu Fleury, vous avez suivi ce dossier. Alors on le voit, Orange Suisse vendu à Apax Partners, Sunrise déjà racheté par un autre groupe d'investissement, CVC Capital Partners. Comment vous voyez ça d'un point de vue de la Fédération des consommateurs?
D'abord, pour nous, le constat, c'est qu'il y a de l'argent à faire en Suisse sur le dos des utilisateurs des télécoms, donc c'est manifestement très lucratif. Ce qu'on craint, c'est que ça soit pas une logique durable, ça soit pas une logique industrielle, que c'est justement ce soit de l'investissement où ce fonds ait envie de rentrer vite dans ces fonds. Donc peu d'espoir d'une stratégie vraiment agressive de challenger par rapport à Swisscom pour prendre des parts de marché, notamment avec une politique de prix agressive. Et là, c'est vrai que c'est un peu inquiétant par rapport à ce qu'on espère sur un marché des télécoms qui reste beaucoup trop cher pour les utilisateurs. Donc là, une nouvelle en demi-teinte, je dirais.
Mais alors, Mathieu Fleury, que, comme le dit Pascal Martin, quelque part, s'il n'y en avait que deux, un deuxième un peu plus gros, une fusion Orange et Sunrise, ça serait peut-être, il y aurait une concurrence un peu plus active et une chance peut-être pour les consommateurs de voir leur prix baisser?
Alors nous étions opposés à la fusion dans l'esprit en disant que finalement le risque c'était que les deux gros, par hypothèse, se seraient contentés d'une situation très confortable en étant avec des tarifs totalement surfaits et en ne s'attaquant pas, en simplement en ayant une rente de situation chacun. Et sur la fusion, on est prêt à changer d'avis si les deux acteurs qui voudraient fusionner fournissent des garanties vis-à-vis des consommateurs. La Comco ne disait pas autre chose, c'est que finalement Ils ont fusionné, mais essentiellement, simplement pour gagner encore un peu plus d'argent. Que j'entende demain un discours disant que cette fusion a pour but de créer un deuxième géant vis-à-vis de Swisscom et que ce géant adoptera une démarche un peu agressive en faveur des consommateurs suisses. Et là, mon opinion changera sur cette fusion qui, alors, je le considérerais comme beaucoup plus positive que celle qui avait été prévue par le passé.
Donc pas de regret sur votre position à la fusion qui était proposée précédemment ?
Non, pas de regret parce que les deux qui prévoyaient de fusionner ont fait preuve de beaucoup d'arrogance, à mon avis, à cette époque. Ils étaient sûrs que ça passerait comme une lettre à la poste. Ils n'ont donné aucune garantie. Et si demain l'idée reste de fusionner, alors à eux d'expliquer comment le consommateur suisse sera gagnant au sortir de cette fusion.
On reste sur le point de vue du consommateur, Pascal Martin. Comment vous voyez évoluer les tarifs de communication mobile après cette vente ? Est-ce que les usagers vont passer à la caisse ou plutôt bénéficier d'un tassement de prix ?
Alors, je pense pas que les opérateurs peuvent maintenant augmenter les prix, à part quelques petits ajustements qui se sont déjà produits ces derniers mois. On voit que les tarifs ont plutôt tendance à monter qu'à baisser depuis maintenant 2 ans. Je pense pas qu'il y aura de grandes différences et que ça va augmenter. Mais par contre, ce qui est clair, c'est que dans la situation actuelle, il ne peut absolument pas avoir de compétition. Au contraire, on risque d'avoir les deux opérateurs challenger, s'ils ne réussissent pas à fusionner rapidement, ils vont exiger plus de régulation. Et en somme, avec plus de régulation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire payer à Swisscom, enlever quelque chose à Swisscom pour pouvoir le donner aux deux autres. Et ça va en aucun cas faire baisser les prix. Ça, pour moi, c'est une certitude.
Merci beaucoup pour votre regard ce soir, Pascal Martin. Vous êtes l'animateur du blog www.scal.ch, spécialiste du multimédia et des télécoms. Bonne soirée. Mathieu Fleury, restez avec nous, directeur de la FRC. On va accueillir ici dans notre studio de Lausanne Jacques Nérinck. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes conseiller national démocrate chrétien vaudois. On revient avec vous, Jacques Nérinck et Mathieu Fleury, sur le décès ce week-end de Catherine Valli, figure emblématique de la télévision suisse romande, championne de la défense des consommateurs. Vous l'avez connue, Catherine Valli, Jacques Nérinck. Vous avez même travaillé avec elle puisque votre début de carrière, c'est dans la consommation, notamment en Belgique, dans un magazine de consommation. Vos souvenirs ce soir de Catherine Valli?
Quand je suis arrivé en Suisse, j'étais toujours président de l'organisation belge, j'étais rédacteur en chef de Que Choisir, l'organisation française, et puis j'ai pris contact avec la Fédération romande des consommatrices, Consumentinform, comme le nom l'indique, c'était au fond des organisations féminines. Et c'est en 76, pour la première émission d'Un Bon Entendeur, que Catherine Valli est venue me trouver. La première émission était sur un sujet qui est toujours valide aujourd'hui. Allez acheter votre voiture à l'étranger, ça coûte moins cher.
Effectivement.
Voilà, donc c'est comme ça que je l'ai connue. J'ai travaillé 10 ans avec elle, de 76 à 86. Et puis en 86, l'EPFL m'a interdit d'encore donner de trop bons conseils à Bon Entendeur. C'est la conception du service public de l'époque.
Jacques Nérinck. Mathieu Fleury, vous Catherine Valli, que vous évoquez la figure Valli en termes de consommation, c'est un modèle ?
Ah, bien sûr, je me définis vraiment, enfin, j'espère pouvoir me définir comme l'héritier de ces pionnières. C'est vrai que c'était un mouvement féminin, absolument novateur, c'était vraiment les débuts de la société civile, et si je peux lui rendre hommage, c'est vraiment, c'est elle, ces pionnières qui ont mis fin à l'impunité totale qui régnait jusque-là. La nouveauté fondamentale que cette émission, notamment à Bon Entendeur, a amené, c'est que personne, aucun industriel, aucun commerçant ne peut dormir sur ses deux oreilles. On sait maintenant que les consommateurs veillent, qu'ils ont un regard sur ce qui se passe et qu'ils peuvent développer un véritable pouvoir. Et jamais je ne pourrais réaliser ce que je réalise aujourd'hui sans le travail de personnes comme Catherine Valli.
Alors ce qui est intéressant, Mathieu Fleury, c'est que la FRC et à Bon Entendeur sont un peu regardés comme chiens de faïence, on peut dire, à l'époque. Il n'y avait pas vraiment de collaboration.
Oui, pareil, mais je ne le comprends pas parce qu'aujourd'hui, on monte des opérations communes, on fait notamment un concours cette année, donc vraiment ça s'est normalisé. Je pense que voilà, c'était peut-être des querelles ou des recherches de parts de marché peut-être à l'époque. Aujourd'hui, ça paraît totalement dépassé. Je crois qu'on tire à la même corde, même s'il y a une saine concurrence au niveau du magazine et de l'émission télé, mais finalement on sait que l'objectif est commun, et je crois que ces vieilles histoires appartiennent vraiment au passé.
Alors Jacques Nérinck,
c'était pas pas des querelles de personnes, parce que je connaissais par exemple très bien Yvette Yagui, qui était secrétaire général, qui remplissait votre fonction actuelle, monsieur Fleury. Alors, ce qui n'allait pas du tout, c'est que j'apportais la culture du test comparatif, c'est-à-dire on mesure les caractéristiques techniques d'un certain nombre d'objets, des frigos, des pointes à écrire, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Et puis au terme de tout ça, on prenait une décision et on disait vraiment aux consommateurs, ceci est le meilleur choix, ceci est le meilleur achat. Alors, dans la culture des organisations féminines, ça n'était pas possible parce qu'il fallait aussi ménager d'autres organisations féminines, par exemple les fermières, et on ne pouvait pas entrer en conflit avec elles. Donc c'était vraiment une autre culture, et ce que un bon entendeur a introduit, c'est on fait des tests comparatifs et on désigne quel est le meilleur choix. Le résultat, c'était, il avait fallu le supporter pendant une année, c'était un procès tous les mois.
Mathieu Fleury, vous disiez avec Catherine Valli, la fin de l'impunité, est-ce qu'on peut dire que depuis Valli, et si on fait le parallèle avec aujourd'hui, cette année 2011, avec la non-répercussion des taux de change, c'est aujourd'hui de nouveau l'impunité qui règne ?
Ah non, je ne crois pas. Je pense que quand je dis la fin de l'impunité, c'est que tout le monde se dit qu'il peut être testé, qu'il peut subir une enquête demain, au moment où il s'attend le moins. Et c'est peut-être ça, ce nouveau sentiment. Je crois que elle vivait dans un milieu extrêmement hostile. Aujourd'hui, en tout cas dans le discours, aucun industriel ou aucun commerçant ne peut ne pas avoir un service consommateur. Donc tout le monde se préoccupe beaucoup des consommateurs aujourd'hui. C'est le fruit de ce travail incessant. Et je pense que, par exemple, en 2011, elle a dû, voir les victoires engrangées. C'est des combats qu'elle avait menés tout au long de sa carrière, notamment sur la loi sur la concurrence déloyale, où il y a toute une série de comportements qu'elle a dénoncés au fil de toutes ses émissions qui ont pu aujourd'hui entrer comme acte déloyal dans la loi. Et là, il y a vraiment des progrès. Et je crois que non, l'impunité c'est terminé. Vraiment, je pense définitivement. Mais il faut toujours lutter parce que la course au profit sera toujours notre pire ennemi et on devra toujours la combattre avec vigueur.
Jacques Nérin, qu'aujourd'hui oui. On a plusieurs outils. On a la FRC, on a la Comco, on a Monsieur Prix, on a un bon entendeur qui continue encore aujourd'hui à faire son travail. Est-ce que l'arsenal est suffisant pour bien protéger les consommateurs en Suisse ?
Mais je dirais du côté de la société civile, oui, la FRC fait son travail. À bon entendeur. Faites un travail de journalisme fondamental, et Daniel Son, c'était du reste dans la même équipe que moi. En revanche, du côté du Parlement, ça ne va pas. On ne donne pas les pouvoirs suffisants à la Comco ou bien à Stephen Meyerhans. Il a fallu encore une initiative parlementaire de ma collègue Josiane Aubert pour que passe en décembre l'interdiction de la publicité pour le petit crédit. Et puis, je dirais, la bataille pour la sortie du nucléaire, elle s'est déroulée au Parlement. Et ça n'a pas été facile.
Stéphane Meyerhans, qui est de votre bord politique, le Parti démocrate chrétien. Une réaction peut-être à Alain-Jacques Tornard. Là, c'est plutôt la réaction de celui qui regarde la télévision.
Oui, j'habitais en France à l'époque, dans les années 70. Et quand je suis arrivé en Suisse, il y a quelques émissions qui m'avaient vraiment impressionné, dont l'émission de Catherine Valli. Vraiment, je me suis dit, moi qui venais d'un pays où la liberté d'expression régnait, et ben là je me rends compte qu'on disait des choses qu'on n'oserait jamais dire. Je crois que pendant longtemps il n'y a pas eu de test comparatif en France possible, la loi l'interdisait, et là tout à coup on avait ce genre de choses. C'était vraiment extraordinaire. Elle m'a beaucoup impressionné aussi. Cette femme avait quelque chose de vraiment un charisme fou, il me semble.
Une émission, Jacques Nérin, précisément unique en Europe.
Oui, l'émission était unique en Europe. Alors, elle a été copiée. Il y a maintenant des émissions en France et des émissions en Belgique. Il y en a toujours eu en Angleterre. Donc, au fond, le test comparatif, c'est une invention anglo-saxonne. C'est typiquement pragmatique. On prend un problème, on le résout. Et maintenant, c'est devenu quasiment banal. Hein. Il y a une organisation de consommateurs, European Consumers, qui couvre 5 pays européens. Donc, c'est un petit peu banalisé maintenant, mais les combats continuent.
Les combats continuent. Merci beaucoup, Jacques Nérin, pour votre hommage à Catherine Valli, démocrate chrétien, ancien collaborateur à ABE en son temps. Merci beaucoup, Mathieu Fleury, directeur, secrétaire général de la FRC. On va poursuivre Forum, mais d'abord une inforoute.
Infotrafic RSR.
Suite à un accident sur l'autoroute Martigny-Vevey, le trafic s'effectue en accordéon entre Aigle et le tunnel de Glion, car la bande d'arrêt d'urgence est bloquée en direction de Vevey. Et sur l'autoroute Yverdon-Morat, un véhicule est en panne sur la bande d'arrêt d'urgence entre Estavayer-le-Lac et Payerne en direction de Morat. La route, le retour à la normale devrait se faire autour de 19h.
Et dans quelques jours, le 1er janvier, le nouveau financement hospitalier entre en vigueur. Nouveau système de facturation pour les hôpitaux. On va travailler par forfait. Et puis, autre nouveauté, désormais, les cantons prendront à leur charge 55% de la facture hospitalière et les assureurs 45%. Chaque canton a publié une liste d'hôpitaux publics et de cliniques privées qui bénéficieront de ce système. Alors, sur le papier, en théorie, c'est plus de transparence et de concurrence, avec pour les patients un plus large choix et qui sait, des économies à la clé pour l'entier du système si l'offre hospitalière est à terme rationalisée.
Avec nous, Bernard Gruson, le directeur des hôpitaux universitaires Genevois, et Jean-François Steyer, conseiller national socialiste fribourgeois, vice-président de la Fédération suisse des patients. On va en parler des changements pour les patients. Alors, disons-le d'entrée, Bernard Gruson, réforme assez complexe. Tout d'abord, le système de facturation qui change, l'arrivée d'un forfait par cas, le DRG. On en parle. Tout d'abord, on dit plus de transparence, plus de concurrence. Ces deux points-là, vous êtes d'accord, c'est vrai?
Sur le plus de transparence, je suis d'accord, à condition évidemment que les paramètres soient les mêmes pour tout le monde. Or, vous le savez qu'on a des échelles de traitement complètement différentes d'un coin à l'autre du pays, ce qui fait que il faudra annuler les différences salariales pour qu'on arrive à des coûts comparables.
On dit que on a un peu de peine à se mettre d'accord sur les tarifs, notamment entre assureurs et hôpitaux. C'est le cas de l'hôpital de Genève?
Oui, c'est le cas des 5 hôpitaux universitaires. Pour la zone de soins aigus, nous ne sommes pas parvenus à un accord contractuel, ce qui va obliger les conseils d'État à édicter des tarifs cadres.
On voit avec ce système donc une classification des patients en fonction du diagnostic, des actes médicaux, du degré de complication. Alors on classifie, on voit tout de suite le danger de chasse au bon risque. Vous le voyez aussi ce danger?
Ah, bien entendu, il y a un intérêt à privilégier l'attractivité pour des patients dont les forfaits sont bien remboursés. C'est une dérive possible du système qu'on a vu dans les autres systèmes qui émettent le même type de facturation. Alors ça, évidemment, c'est un risque certain. Il y a un deuxième risque, c'est d'avoir une concurrence forcée, parce que la notion de concurrence dans le secteur de la santé, particulièrement de la santé publique, veut pas dire grand-chose. Les patients sont surtout attirés par la proximité, par la qualité et la sécurité des soins, bien entendu, et par la recommandation de leur médecin traitant. Il y a donc des paramètres éminemment subjectifs qu'il faudra analyser après une ou deux années de fonctionnement de ce nouveau système.
Jean-François Steyer, vous faites le même diagnostic aujourd'hui sur les dangers possibles de cette réforme, notamment sur ce qui est de la concurrence et puis la chasse au bon risque?
Parler de concurrence ces dernières années dans notre système de santé, c'est probablement pas le meilleur des discours, on en revient un tout petit peu. Le système des forfaits par cas a été introduit dans plusieurs pays européens, notamment en Allemagne, avec des effets secondaires assez discutables, les sorties précoces des hôpitaux. L'ensemble des partenaires de la santé ont essayé, au courant de l'année écoulée, de corriger un tout petit peu les règles pour éviter une partie des effets négatifs qu'on a pu observer, notamment en Allemagne. Je pense qu'il y aura des pannes, je pense qu'il y aura des difficultés. Le Parlement a décidé d'introduire ce système à partir du 1er janvier 2012, donc il faudra le faire le moins mal possible. Pour éviter les pannes, il faut un suivi proche, il faut des travaux de recherche appliqués très proches pour voir très rapidement les choses qui doivent être corrigées. Il faut aussi une flexibilité de la part des autorités et des prestataires, parce qu'il faut être prêt à corriger rapidement un certain nombre de choses dont on sait qu'elles ne marcheront probablement pas parfaitement dès le début.
Jean-François Steyer, vous êtes vice-président de la Fédération suisse des patients. Alors voilà, question toute simple en fin de compte, qu'est-ce qui va changer dès le 1er janvier pour les patients?
Il y a plusieurs choses qui changent. À ce jour, c'est peut-être la chose principale. Un patient qui souhaitait se faire traiter dans un autre canton devait soit disposer d'une assurance complémentaire particulière pour pouvoir se faire traiter dans l'ensemble de la Suisse indépendamment des soins nécessaires, ou alors avoir des raisons médicales pour se faire traiter dans un autre canton, sinon il devait payer un montant relativement important. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, si ce n'est que la loi prévoit que si on va dans un hôpital d'un autre canton dont les coûts sont plus élevés que ceux du propre canton, le patient doit prendre en charge la différence s'il n'a pas une assurance complémentaire. Concrètement, un patient de Genève pourra, à certaines conditions, fréquenter les hôpitaux de pratiquement toute la Suisse sans coûts supplémentaires, parce que les coûts de la plupart des autres cantons sont plus bas. En revanche, un patient fribourgeois ou un patient valaisan un patient jurassien, un patient neuchâtelois, devra bien vérifier s'il n'a pas une assurance complémentaire idoine avant de se rendre dans un canton comme le canton de Vaud, le canton de Genève ou le canton de Berne pour aller se faire traiter.
Alors Bernard Gruson, parmi les conséquences envisagées pour les patients, on annonce éventuellement ce qu'on appelle le bloody exit, des malades qui seraient poussés un peu prématurément hors de l'hôpital parce qu'il faut rationaliser, il faut faire des économies. Ce risque-là, il est réel?
Le risque existe, quel que soit le système de facturation, dans la mesure où la pression sur les journées inappropriées d'hospitalisation existe déjà dans un système de forfait journalier. Mais le risque existe bel et bien. Ceci étant, c'est très peu documenté par des recherches aujourd'hui. Très peu d'indicateurs permettent de discerner quelles sont les journées d'hospitalisation ou, disons, les sorties d'hôpitaux qui ont été précoces. Alors évidemment que dans ce nouveau système, on devrait pouvoir, par des études, comme l'a dit M. Steyer, documenter cette affaire, mais le risque existe bel et bien. S'agissant de la liberté de circulation des patients, elle sera totale s'il s'agit d'une urgence médicale ou si la spécialité dans laquelle le patient doit être opéré n'existe pas dans le canton d'origine.
Jean-François Steyer, question à l'homme politique que vous êtes, plutôt que celui de vice-président de la Fédération Suisse des Patients. Est-ce que cette réforme complexe qui s'ouvre en ce début d'année 2012 permettra une réduction des coûts de la santé?
Je n'y crois pas vraiment. Je pense qu'elle peut permettre plus de transparence, plus d'ouverture. À court terme, à moyen terme, je ne pense pas qu'on va observer une réduction des coûts. On a au contraire, à partir du 1er janvier 2012, une augmentation de l'ensemble des coûts du système pour des raisons liées à la politique des assurances privées. En tout, le Conseil fédéral l'a admis dans une réponse qu'il a donnée en septembre 2011. Les cantons et l'assurance obligatoire payeront 1,5 milliard de plus par année pour les coûts qui résultent de l'assurance obligatoire. On devrait retrouver ce coût de manière négative dans l'assurance complémentaire, c'est-à-dire que les primes des assurances complémentaires devraient baisser de manière relativement importante à partir du 1er janvier 2012. Le Conseil fédéral a admis que ce 1,5 milliard devait se retrouver de l'autre côté, mais il a admis aussi que l'autorité compétente, qui est la FINMA, n'a pas les moyens d'aller vérifier et que probablement les primes seraient trop élevées du côté des assurances complémentaires en 2012, c'est-à-dire la somme de toutes les primes et des participations cantonales sera plus élevée, assez largement plus élevée en 2012 qu'en 2011. Personne ne sait très bien où l'argent passe. On aura besoin d'une transparence plus importante. Des demandes ont été faites d'ailleurs pour qu'une surveillance accrue se fasse sur l'assurance privée.
Et que va-t-il se passer? On a bien compris qu'il y avait des listes d'établissements. Pour les cliniques qui ne seraient pas dans ces listes, est-ce qu'il y a des risques de disparition de cliniques privées?
Toutes les cliniques privées sont actuellement en négociation, ou les compagnies de ou les réseaux de cliniques privées sont actuellement en négociation avec les assureurs pour une couverture par l'assurance complémentaire. Certains assureurs font actuellement fortement pression sur les cliniques privées pour une baisse des coûts. Il n'est pas exclu que certaines cliniques privées qui n'ont pas de mission publique se retrouvent en difficulté. Encore une fois, chaque canton est aujourd'hui libre de négocier avec l'ensemble des hôpitaux qui sont sur son territoire quels sont les besoins et qui couvrent quel type de besoins. Si certaines cliniques privées sont totalement en dehors des besoins définis par le canton, elles courent effectivement un certain risque.
Bernard Gruson, pour conclure, quand on est à la barre d'un hôpital comme Genève, compréhension totale de ce qu'il faut faire et de ce qu'il faut mettre en route, ou vous naviguez un peu à vue en ce moment?
Non, parce que nous pratiquons la facturation en Suisse DRG, ce qu'on appelait APDRG avant, depuis 2007. Donc du côté de la facturation, non. Mais on navigue un peu à vue sur les mouvements de patients possibles entre les cantons, ça c'est vrai, ainsi que les choix que feront les patients entre les hôpitaux publics et les cliniques privées qui ont reçu des mandats de prestation. Là, effectivement, c'est très difficile d'imaginer ce qui va se passer.
Entrée en vigueur le 1er janvier de cette réforme hospitalière. Je vous remercie beaucoup Bernard Gruson, directeur des hôpitaux universitaires genevois, Jean-François Steyert, vice-président de la Fédération Suisse des Patients. Une excellente soirée à vous.
Merci à vous aussi.
Bonne soirée.
Et pour terminer, Forum, notre série Carte blanche aux historiens cette semaine dans Forum. Un historien ce soir est avec nous, Alain-Jacques Tornard, historien franco-suisse, gruyérien, ancien chargé de cours en histoire moderne à l'université de Fribourg. Vous êtes spécialiste, un grand spécialiste de la période révolutionnaire. On cite votre ouvrage La Révolution française pour les nuls aux éditions First. Alors 2011, on l'évoque avec vous, et surtout cette année du soulèvement des peuples dans le monde arabe, vent de révolte qui a abouti aux chutes des régimes tunisiens, égyptiens, libyens. Alors on se dit la chute des tyrans, le soulèvement du peuple, la parole donnée au peuple, tout cela ressemble à des révolutions. Vous n'êtes pas d'accord avec cela?
Oui, le Canada Dry, vous savez, vous vous souvenez, on disait ça a le goût de l'alcool, ça a l'apparence de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. On ne doit pas confondre les révoltes, ce qu'on appelait autrefois les émotions populaires, avec les révolutions. Je pensais d'ailleurs dans le cas de la France, parce qu'on voit qu'il y a souvent eu des revendications, tout cela. Puis j'imaginais justement dans mon prochain livre, tout à coup une révolte qui tourne un peu au vinaigre, et quelqu'un arrive chez Nicolas Sarkozy en lui disant, lui annonçant la révolte en question, et puis lui dit ah mais c'est une révolution, puis on lui répond non, sire président, c'est une révolte. C'est pas la même chose. Une révolte, ça pas forcément un projet derrière. Pour qu'il y ait une révolution, il faut qu'il y ait un projet. La révolution, c'est un peu comme une corde qui se tend et qui casse, parce que il y a avant qu'il y ait une révolution, il y a une absence d'évolution du régime. Alors c'est quand même différent. On pense particulièrement, naturellement, à la référence de la Révolution française.
On a quand même la chute de tyrans, des peuples qui ont dénoncé la corruption, les privilèges, un système démocratique ou un autre système, en tout cas les institutions qui sont bousculées. Et on peut vous rétorquer que tout cela prend énormément de temps et qu'une révolution se fait pas en un jour. La Révolution française, c'est pas fait en un jour.
Alors justement, je vous renvoie à ma Révolution française pour les nuls. La Révolution française, en fait, bien sûr, c'est pas fait en un jour, mais quasiment. Je veux dire, quand il y a la Révolution, prenez l'année 89, les États généraux se réunissent au mois de mai, et dès le mois d'octobre, on veut dire, toute la structure de ce qui va devenir la Révolution française, c'est fait. Vous avez la Déclaration des droits de l'homme, vous avez l'Assemblée nationale, vous avez le roi qui ne devient que le roi, le premier fonctionnaire de l'État. Tout est fait. Alors ensuite, naturellement, faudra attendre, il va y avoir des reflux, des avancées, des captations d'héritage. Napoléon Bonaparte, d'ailleurs, va complètement phagocyter tout cela avec le retour de l'ordre. Napoléon, d'ailleurs, disait, dans les révolutions, il y a deux sortes de gens, ceux qui la font et ceux qui en profitent. Mais naturellement, elle mettra un siècle jusqu'en 1905 avec la séparation définitive de l'Église et de l'État. Mais il n'empêche que dès 1789, ceux qui sont appelés à gouverner la France et qui avaient un véritable projet de changement du pays, sont au pouvoir en 89. Après, il y aura ce qu'on a appelé des dérapages, il va y avoir la terreur, mais tout est fait. Tandis que là, c'est le contraire qui s'est produit.
Alain-Jacques Tornard, quand même, il y a un projet derrière toutes ces révoltes.
Oui,
ou il y a un projet de démocratie.
Oui, vous
et
avez
puis,
raison.
Il y a des choses qui se sont mises en place.
Tout à fait.
En Libye.
Il y a ceux qui ont fait la révolution. Ceux qui croyaient vraiment qu'ils pouvaient changer les choses, hein. Vous avez les internautes, tous ces gens-là. Mais regardez, au moment des élections, c'est pas eux qui sont arrivés au pouvoir. Même dans un pays dont on vantait, qui était le plus proche de chez nous, la Tunisie, hein. Tous ceux qui ont été en Tunisie, moi le premier, on voyait bien que c'était le régime qui était le plus proche de nous, on vantait d'ailleurs même autant de Ben Ali, hein. Je vous rappelle quand même, en tant qu'historien, le problème avec les historiens, c'est qu'ils voient, ils retiennent les choses, on a bonne mémoire, malheureusement. À un moment donné, vous remarquez qu'il faut toujours avoir ou bonne mémoire ou bonne conscience. Et là, en l'occurrence, c'était un régime qu'on était d'ailleurs pas forcément contre. Donc ces gens-là qui ont fait cette révolution, ces internautes, même là-bas, ont été privés très rapidement du pouvoir, puisque ce sont les islamistes dits modérés qui ont gagné quand même le pouvoir, même si le président, qui n'a aucun pouvoir, est un modéré, parce qu'il faut bien faire, il faut bien rassurer l'Occident.
En Tunisie, donc, oui.
En Tunisie, donc, bien entendu, je ne vous parle pas de la Libye. Hein, je vous rappelle quand même que sous Kadhafi, les femmes avaient un minimum de pouvoir, tandis que ce n'est plus du tout le cas maintenant. Je ne vous parle pas naturellement du cas de l'Égypte, c'est encore pire, hein, puisque entre les salafistes, qui sont les durs de durs, et les frères musulmans, qui sont soi-disant un peu plus modérés, c'est quand même, ils représentent quand même les trois quarts de la population. Et c'est eux qui ont pris le pouvoir. Donc, si vous voulez, c'est une révolution qui en fait a été captée par les contre-évolutionnaires. C'est assez amusant, c'est une contre-évolution. Si vous voulez, les régimes qui étaient en place étaient des régimes en grosso modo, le dit laïque. Mais ils avaient eux-mêmes, ils faisaient d'énormes concessions déjà aux islamistes, parce qu'ils voyaient bien que c'était la tendance dure. On voyait bien le régime de Moubarak, comme il faisait des concessions très importantes aux islamistes, y compris d'ailleurs même vers la fin le régime de Ben Ali. Mais ils ne représentaient pas la légitimité. Et les gens qui étaient des gens modernes, des gens laïques, les gens de progrès, ont cru pouvoir faire cette révolution-là. Mais on a, automatiquement, ce sont ces contre-évolutionnaires, j'aime bien cette formule-là, de contre-évolutionnaires qui ont pris le pouvoir. Jamais une révolution ne se fait avec des contre-évolutionnaires.
Une révolution, elle se fait, en revanche, avec une forme d'inversion du rapport de la peur. Au fond, on a vu tous ces peuples, d'un coup, nous dire nous n'avons plus peur.
Oui, bien sûr.
C'est ce qui a vraiment fait chuter le régime, un régime autoritaire qui joue avec ça, qui doit faire peur pour subsister.
Oui, non, bien entendu, ce sont souvent des régimes de terreur. Mais je veux dire, ce qui se met en place, l'air de rien, en tout cas on le voit bien en Libye, c'est aussi avec toutes les conséquences que cela implique. Vous avez l'éclatement de l'État-nation libyen hein, en trois entités, hein, qui on voit bien qu'on tend vers cela. On voit bien le rôle de l'Occident, on l'a minimisé, mais on voit bien qu'on a joué un rôle énorme dans toutes ces évolutions. Dans le cas de l'Égypte, on voit bien qu'on est seulement dans un cadre de coup d'État. Alors naturellement, il y a des gens sincères, des gens qui ont été là, mais c'est pas eux qui ont gagné. Même dans la bourgeoisie, la bonne bourgeoisie égyptienne d'Alexandrie et du Caire, ce sont les fondamentalistes qui ont gagné.
Alain Jacques Tornat, est-ce que c'est pas aussi une vision un peu occidentale? Quelque part, si on prend l'exemple de la Tunisie, le parti Ennahda qui a gagné, islamiste modéré, ils se disent aussi démocrates, ils veulent l'évolution, ils veulent pas forcément ne pas évoluer vers le passé.
Bon, alors je pense que comme beaucoup de partis politiques dans ces pays-là, ils ont un discours pour nous. Parce qu'ils savent très bien, justement, que je vous reprends exactement l'inverse, ils savent très bien que nous, on a cette vision de la démocratie, et pour nous faire plaisir, quelque part, ils nous tiennent ce discours-là. C'est le même cas, vous avez le même cas en Turquie, vous avez le régime qu'on trouve très acceptable du président turc, qui en fait, on se rend compte que les chrétiens sont assez persécutés dans ce pays-là, on voit bien qu'il y a un déficit démocratique énorme, mais il suffit de nous présenter les choses comme il faut, et puis nous nous contentons de cette présentation-là. Ça relève beaucoup plus de la cosmétique, parce qu'ils savent très bien que, quelque part, il y a une grande part d'évangile...
Évangélisation
d'angélisme. D'angélisme chez nous.
Ouais. Alain-Jacques Tornard, bon, ceux qui se sont sentis à un moment donné mal à l'aise avec le terme révolution, ont parfois parlé de printemps arabe. Ouais. Voilà, référence
jasmin,
au printemps
c'était...
des peuples. Voilà. 1848,
jasmin...
vous n'êtes pas plus convaincu par le printemps. Comme
image. Disons que le jasmin tunisien, j'étais plus convaincu par l'œillet portugais dans les années 1970, voyez-vous, où il y a véritable... Mais non, j'aimerais bien, vous savez, les historiens, nous sommes des gens très pessimistes, quelque part, et j'aimerais tellement avoir tort dans ce que... Mais j'espère que dans le long terme, mais le problème, c'est l'islam il réside bien là-dedans, le problème.
Alain-Jacques Tornard, les indignés dont on a beaucoup parlé, eux, voilà, ce sont des révolutionnaires, par contre.
Cela, vraiment, je les ai dans collimateur. J'aime beaucoup Monsieur Hessel, naturellement. Il est très sympathique et j'adore aussi, moi, les bons sentiments. Mais c'est pas avec ça qu'on change les choses. Être contre quelque chose, justement, un révolutionnaire, c'est d'abord quelqu'un qui est pour, qui a un véritable projet. Mais les indignés sont contre le capitalisme. D'ailleurs, on voit d'ailleurs même dans l'intitulé du parti anticapitaliste, c'est terrible d'entendre ça.
Ils sont pour
ça.
Un autre monde, un autre...
Oui, mais bien entendu, mais il faudrait... Non, alors moi aussi, hein, je veux dire, je suis pas du tout un partisan du capitalisme, pas du tout. Au contraire, mais le truc, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut, quel est le produit de substitution, quel est le projet de substitution. D'ailleurs, c'est tout au cœur même des élections françaises à l'heure actuelle, hein, ce qui fait que Marine Le Pen surfe littéralement là-dessus en présentant un projet alternatif tout à fait ahurissant, mais qui tient la route au niveau de l'alternance, parce que personne d'autre ne propose réellement l'alternance, parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'alternance. On peut juste donner un peu de cosmétique sur le capitalisme.
Les révolutions arabes, abus de langage, c'était votre thème ce soir pour cette série de cartes blanches aux historiens qui démarre dans Forum cette semaine. Alain-Jacques Tornard, historien franco-suisse, vous êtes spécialisé dans les relations entre la Suisse et la France. Je signale votre dernier ouvrage qui est encore exclusif mais peut-être apparaître très prochainement, Guide historique du canton de Fribourg et de la Suisse à l'usage des nouveaux fribourgeois. On peut vous lire aussi dans le magazine Suisse Magazine. Merci beaucoup.
Merci beaucoup de m'avoir invité.
Une excellente soirée à vous, et c'est la météo d'Edmé Fleury.
Le beau temps s'installe en Suisse romande jusqu'à mercredi grâce à une zone de haute pression très puissante. Demain, nous retrouverons ces conditions anticycloniques. Soleil omniprésent en montagne, le stratus réapparaît sur le plateau, limite supérieure vers 1000 mètres. Cette grisaille ne se dissipera que partiellement dans l'après-midi. Côté température, fraîcheur à l'aube, moins 1 degré en plaine, moins 5 en vallée, attention aux plaques de verglas, jusqu'à 5 degrés dans l'après-midi, 5 degrés aussi à 2000 mètres d'altitude. Mercredi, dernier jour de beau temps, la grisaille matinale sur le plateau devrait rapidement se dissiper pour laisser la place à un soleil radieux partout. Des passages nuageux de plus en plus nombreux en soirée annoncent l'arrivée d'une série de perturbations. Jeudi, retour de la pluie et de la neige des 800 mètres. Vendredi, précipitations plus soutenues et abondantes avec une limite pluie-neige aussi entre 600 et 900 mètres. Net refroidissement en montagne.
Infotrafic RSR.
Des plaques de verglas peuvent se former par endroits ce soir et cette nuit jusqu'en plaine. Soyez prudents. Sur l'autoroute Yverdon-Mora, le trafic s'écoule à nouveau sans encombre entre Estavayer-le-Lac et Payerne en direction de Mora. La situation s'est également normalisée sur l'autoroute Martigny-Vevey entre Villeneuve et le tunnel de Glion en direction de Vevey. Et à Vernier, la route de Vernier est rouverte. Côté suisse alémanique, on signale toujours un embouteillage sur l'axe Zurich-Berne entre Rotrist et Unzingen en direction de Berne, ainsi que sur l'A2 Bâle-Lucerne.
Infotrafic RSR en collaboration avec les CFF et le TCS.
C'est la fin de cette édition de Forum. Merci à Philippe Vaudan et Mathieu Balmer à la technique. Merci également à notre invité fil rouge ce soir, l'historien Alain-Jacques Tornard. Une excellente soirée sur la première. Il est 19h.